Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tungandamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure de programme en français. Dans ce programme, on retrouvera Christophe Mallet et Florian Malézieux actuellement sur la Grande Boucle, en tournage sur la Grande Boucle. On reviendra également sur la tentative d'assassinat de Donald Trump le week-end dernier. On découvrira aussi la vie de la cantatrice Maria Callas. Place à présent à l'actualité de ce mardi 16 juillet. Au sommaire, l'armée australienne devrait se doter de nouveaux véhicules de mobilité d'infanterie Bushmaster dans le cadre d'un contrat de 45 millions de dollars. Et en France, blocage sur le choix d'un candidat pour Matignon alors que la composition de la nouvelle Assemblée se précise. Et aux États-Unis, des républicains choisissent Donald Trump comme leur candidat au présidentiel du mois de novembre prochain avec J.D. Vance comme co-listier. Quinze nouveaux blindés Bushmaster sont construits à Bendigo. C'est le constructeur de défense Thales qui a remporté ce contrat de 45 millions de dollars pour la construction de véhicules blindés à quatre roues motrices. Ces engins soutiendront le régiment d'artillerie mobile des forces de défense australiennes. Les Bushmaster se sont rendus célèbres et sont devenus le symbole de la résistance ukrainienne. L'Australie en ayant envoyé 120 à Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022. Le ministre de l'Industrie de la Défense, Pat Conroy, a déclaré que ces véhicules constituent un élément essentiel de la technologie de défense.
Bushmaster save lives. We've seen them save Australian soldiers' lives in the Afghanistan deployment. We've seen them save Ukrainian lives during the current conflict in Ukraine as a result of Vladimir Putin's unprincipled invasion of Ukraine.
Les quatre grandes banques australiennes sont accusées de ne pas avoir atteint leurs objectifs climatiques. Une récente étude a révélé que les quatre plus grandes banques du pays ont prêté 3,6 milliards de dollars à des projets de combustibles fossiles l'année dernière. Le rapport Banking Climate Failure indique que la Commonwealth, l'ANZ, la NAB et Westpac ont prêté un total de 61 milliards de dollars à des projets liés aux combustibles fossiles depuis l'accord de Paris sur le climat. Et sans surprise, le Parti républicain a choisi Donald Trump pour être son candidat à la présidentielle du mois de novembre prochain. Un peu plus tôt, Donald Trump avait désigné son colistier J.D. Vance, un ex-critique devenu son plus fervent défenseur. Portrait de J.D. Vance avec Elio Prachet pour RFI.
Lors de la campagne pour la présidentielle de 2016, James David Vance était allé jusqu'à comparer Donald Trump à Adolf Hitler. Il décrivait alors le milliardaire américain comme un idiot qui ne devrait pas gouverner le pays. Natif de Middleton, dans l'Ohio, J.D. Vance était alors connu pour un livre, ses mémoires, baptisé Hillbilly Elegy. Il y raconte une enfance dans une Amérique blanche, ouvrière, en proie au déclassement. Devenu avocat d'affaires après des études à Yale, puis investisseur dans la tech à San Francisco, certains le voient alors comme l'incarnation du rêve américain. Mais au fil des ans, l'ambitieux Vance change son fusil d'épaule et vire à droite toute jusqu'à obtenir le soutien de Donald Trump lors des sénatoriales de 2022. Isolationnisme, protectionnisme économique, discours anti-avortement et anti-immigration, voire adepte de la théorie du grand remplacement, le sénateur Vance finit par totalement embrasser les idées du candidat Trump au point d'être désormais considéré comme l'un de ses plus fidèles soutiens. Le camp démocrate, lui, le considère tantôt comme un opportuniste, tantôt comme une copie conforme de Donald Trump, selon les mots de Joe Biden lui-même qui commentait lundi cette nomination.
Pour Antoine Yoshinaka, professeur des sciences politiques à l'Université de New York, le choix de J.D. Vance est avant tout le choix de la loyauté.
J.D. Vance, donc le sénateur de l'Ohio, c'est un des plus grands supporters de Donald Trump au Sénat américain. Il a été élu en 2022, donc il n'a pas une longue carrière en politique, mais Donald Trump l'avait appuyé formellement en 2022. Ça lui avait permis de remporter la primaire républicaine qui était très, très, très contestée. Et une fois qu'il est arrivé au Sénat, il s'est clairement casé, si vous voulez, du côté de la faction pro-Trump. Donc, par exemple, sur des enjeux comme l'Ukraine, il s'oppose à des aides additionnelles à l'Ukraine. Et c'est une vision plus isolationniste en termes de relations internationales, ce qui cadre très bien avec la position de Donald Trump. L'intention, là, il voulait vraiment une volonté de s'assurer d'avoir comme colistier, quelqu'un qui serait entièrement loyal envers lui.
C'était le professeur Antoine Yoshinaka de l'Université de New York au micro de nos confrères de RFI. En France, arrivé en tête des législatives, le nouveau Front populaire n'a toujours pas trouvé un accord sur une équipe gouvernementale plus d'une semaine après le scrutin. La France insoumise a fermé hier la porte à une candidature issue de la société civile pour être premier ministre d'un gouvernement de gauche, une hypothèse qui avait été avancée par les socialistes, puis les communistes et les écologistes au motif qu'elle manquerait de garanties pour la mise en œuvre du programme du nouveau Front populaire. Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ILAB, qualifie cette semaine de semaine décisive pour la composition de l'Assemblée nationale.
C'est une semaine où chacun va pouvoir compter ses forces, et notamment effectivement l'élection du président de l'Assemblée, qui donnera lieu à un premier test grandeur nature de la solidité de l'union ou pas des différentes forces politiques. Et notamment à gauche, on verra s'il y a un accord pour présenter une candidature commune, mais chacun va compter ses forces et on y verra peut-être un peu plus clair, espérons-le, en fin de semaine.
Et au centre-droite, Emmanuel Macron pense qu'il peut lui aussi mettre en place une coalition, mais le camp présidentiel, lui aussi, est en proie à des divisions internes.
Le camp présidentiel a subi une sévère défaite et comme toujours dans ce cas-là, le camp qui subit la défaite est exposé à des vents contraires, d'autant que le président de la République n'a plus l'autorité nécessaire puisqu'il ne se représente pas et que donc il y a autour de lui toute une série, j'allais dire, d'affranchis, pour reprendre un film connu, d'affranchis qui se disent « moi j'avance, Gabriel Attal a avancé contrairement peut-être aux vœux de l'Élysée sur la présidence du groupe Renaissance, Édouard Philippe a pris ses distances, Bruno Le Maire également, et donc on ne sait plus qui détient l'autorité naturelle au sein du camp qui était la majorité. Maintenant, le président de la République va être quand même à un moment obligé de prendre une décision. Va-t-il appeler pour un premier tour de piste, j'allais dire un premier ministre issu de la gauche, quitte à ce que ce gouvernement de gauche soit censuré rapidement pour qu'après il puisse tenter l'opération d'une coalition, ou va-t-il directement passer par l'hypothèse coalition, ce qui ne manquerait pas de provoquer la colère de la gauche.
Et c'était Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ILAB, au micro de RFI. Et au Rwanda, la population a été appelée à voter hier pour la présidentielle et les législatives. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, brigue un quatrième mandat de 5 ans. Seuls deux autres candidats ont été autorisés à se présenter face à lui, le député du Parti Vert Démocratique Frank Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana, alors que les candidats plus critiques ont été écartés. Les premiers résultats donnent Paul Kagame très largement vainqueur. Lisa Fabien, RFI.
Au moment du dépouillement, un seul nom résonnait dans cette salle de classe transformée en bureau de vote. Kagame Paul. Le président sortant écrase une fois encore ses opposants triés sur le volet. Les principales figures de l'opposition, les voix les plus critiques, ayant été disqualifiées en amont de l'élection. Pourtant, la jeune Sifa est allée voter avec fierté ce lundi, elle qui n'a connu qu'un seul dirigeant à la tête de son pays.
J'étais très curieuse de participer participer à une élection. C'est pour ça que je me suis levé très tôt ce matin. Ça s'est très bien passé, il y a une forte participation et le résultat, eh bien, c'est comme s'il était déjà connu, puisque nous savons ce que nous voulons.
Durant sa campagne, Paul Kagame s'est toujours montré confiant, présentant cette nouvelle élection comme une formalité, un plébiscite de son action à la tête du Rwanda. Après une réforme constitutionnelle adoptée en 2015, Paul Kagame peut encore diriger le Rwanda pendant deux mandats de 5 ans jusqu'en 2034.
L'Union européenne a annoncé des sanctions contre 5 individus et 3 entités israéliennes pour des violations graves et systématiques des droits de l'homme contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La liste comprend Tzav 9, un groupe qui, selon l'UE, bloque régulièrement les camions d'aide humanitaire livrant de la nourriture, de l'eau et du carburant à la bande de Gaza. Sur la liste figure également Baruch Marzel, qui, selon l'Union européenne, appelait ouvertement au nettoyage ethnique des Palestiniens. Il n'y a aucun commentaire immédiat de la part des personnes sanctionnées. Écoutons des propos tenus par Baruch Marzel en 2019.
Everything we say is written in the Bible, and that's a promise God gave Abraham that the land will be for his descendants, for the Jewish people.
Les sanctions de l'UE contre ces personnes et organisations israéliennes comprennent notamment le gel des avoirs et une interdiction de voyager vers les pays de l'Union européenne. Et les Nations Unies ont annoncé hier qu'elles commenceraient à amener davantage de véhicules blindés et d'équipements de protection individuelle à Gaza pour leurs opérations d'aide humanitaire. Cette décision a été prise à la suite d'une lettre de l'ONU envoyée à Israël le mois dernier concernant la sûreté et la sécurité dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le Hamas. L'ONU a été confrontée à d'importants défis pour acheminer de l'aide à la bande de Gaza. Il faut signaler qu'Israël inspecte et approuve tous les camions entrant dans l'enclave. La situation a été exacerbée par l'anarchie totale dans ce morceau de territoire de 2,3 millions d'habitants où le risque de famine est élevé selon l'Observatoire mondial de la faim. Scott Anderson, directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza, affirme que l'équipement supplémentaire pourrait arriver sur place dès ce mardi.
Armored vehicles are coming in. Some will start coming in tomorrow and through the rest of the month. Personal protective equipment is also coming in. Again, some starting tomorrow, and then others will come in later this month. And some communications equipment has also been approved. There are some communications equipment that we're still under discussion around, but I have seen what I would consider a positive response, which I said is very welcome, and we're thankful for that.
Et pour conclure l'actualité de ce mardi, un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays. Perth, temps ensoleillé, 22 degrés. Adélaïde, plus intermittente, 14. Melbourne, la pluie, donc un temps de pluie, un temps pluvieux qui s'atténuera et se transformera en averse avec un maximum de 14 degrés. Hobart averse 13 degrés. Canberra averse également et un top de 11 degrés. Wollongong, pluie intermittente, 14. Même condition à Sydney avec un maximum de 15 degrés. On signale des tempêtes orageuses à Newcastle avec 15 degrés. Partiellement couvert à Brisbane avec 19 degrés. Averse à Cairns avec un maximum de 27 degrés. Et temps ensoleillé à Darwin avec un maximum de 32 degrés. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SBS. Il est 13h13min 37 secondes. Après une courte pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse avec le magazine des sports.
Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis avec la finale de Wimbledon et la victoire de l'Espagnol Alcaraz contre Djokovic, le Serbe, en 3 manches, 6-2, 6-2, 7-6. C'est le quatrième grand chelem pour l'Espagnol. On l'écoute.
Well, honestly, I'm it is a dream for me winning this trophy. I think an interview when I was 12 or 11 years old, I said that my dream is to win Wimbledon. So I'm I'm repeating, you know, my dream. I want you to keep going, but obviously it's a great feeling to play in this court, in this beautiful court, to leave this amazing trophy. I'm gonna say, or I said it before, that for me this the most beautiful tournament, the most beautiful court, and obviously the most beautiful trophy.
Et Novak Djokovic a salué la performance de Carlos Alcaraz.
The level of tennis that wasn't up to par really from my side, but I mean credit to Carlos for really playing some amazing tennis, very complete tennis from back of the court, serve. I mean he had it all today. I tried to push him, you know, save the three match points and extended the match a little bit, but it wasn't meant to be. Really, he was an absolutely deserved winner today. So huge congratulations to him for amazing tennis.
Et maintenant, le décryptage du match avec Eric Mamrut pour RFI.
Il m'a vraiment surpassé. Rares sont les fois où Novak Djokovic a reconnu à ce point la supériorité de son adversaire à l'issue d'une des 37 finales de Grand Chelem que le Serbe a disputées. À deux autres reprises, en fait. En 2020, contre Rafael Nadal à Roland-Garros, ou encore à l'US Open l'année suivante, lorsque Daniil Medvedev l'avait également surclassé. Mais ce dimanche, Carlos Alcaraz a livré une véritable démonstration. Trop rapide, trop puissant, l'Espagnol a écœuré l'ancien numéro 1 mondial à grands coups d'accélération, de passing, de service gagnant et d'amorti ciselé. En patron, il a conservé son trophée de Wimbledon 5 semaines après avoir remporté Roland-Garros, un enchaînement Paris-Londres que seuls 5 joueurs avant lui avaient réalisé. Vainqueur des 4 finales de Grand Chelem qu'il a disputées, l'Espagnol de 21 ans est l'un des champions les plus précoces de l'histoire avec Björn Borg, Boris Becker et Mats Wilander. Un temps de parcours vertigineux, supérieur à ceux de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Déjà sacré sur toutes les surfaces du circuit, Carlos Alcaraz est fait du même bois que ses légendes du tennis et paraît bien parti pour chahuter leur record, car lui-même le reconnaît. Je ne sais pas où est ma limite.
Chez les dames, Barbora Krejčíková, la Tchèque, est la championne de 2024. Elle a battu l'Italienne Jasmine Paolini en 3 manches, 6-2, 2-6, 6-4. À nouveau, Eric Mamrut pour RFI.
C'est le plus beau jour de ma carrière, mais aussi de ma vie, a lancé Barbora Krejčíková, incrédule, au moment de recevoir le célèbre plateau doré de Wimbledon, 32e mondial avant le début du tournoi. La Tchèque de 28 ans ne figurait pas parmi les favorites de ce tournoi. Blessée et malade ces derniers mois et même ces dernières années, elle enchaînait défaite sur défaite. Elle n'était plus que l'ombre de la lauréate de Roland-Garros qu'elle fut en 2021, un sacre là aussi inattendu, qu'elle aura donc mis 3 ans à véritablement confirmer. Ce titre sur gazon est d'autant plus chargé en émotions, car la Tchèque suit ainsi les traces de son mentor. Sa compatriote Jana Novotna, victorieuse de Wimbledon en 1998, est décédée il y a 7 ans. Barbora Krejčíková de retour, donc au sommet, en simple tout du moins, puisqu'en double, elle n'a cessé d'accumuler les trophées avec 10 titres majeurs récoltés. De quoi faire pâlir de jalousie sa victime du jour, l'Italienne Jasmine Paolini. Toujours bredouille, après avoir perdu 5 semaines après celle de Roland-Garros, sa 2e finale en Grand Chelem d'affilée.
On passe à l'Euro de foot avec l'Espagne qui gagne la finale de l'édition de 2024 contre l'Angleterre, 2-1, après les 3 titres déjà obtenus en 1964, 2008, 2012, un record après ce 4e sacre, comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI.
1964, 2008, 2012 et donc 2024, un sacre mérité. La Roja a remporté tous ses matchs et le dernier 2-1 face à des Anglais accrocheurs. Comme souvent, les ailiers espagnols se sont montrés dangereux. Ouverture du score en début de seconde mi-temps de Nico Williams, bien servi par Lamine Yamal, le meilleur passeur du tournoi. Égalisation anglaise à la 73e grâce au pied gauche de Cole Palmer et à la 86e à l'issue d'un beau mouvement, Mikel Oyarzabal a offert la victoire à l'Espagne. Le défenseur Robin Lenormand, né en France, savoure son tout premier trophée en sélection.
Beaucoup de fierté après le chemin parcouru. Quand tu regardes tout le parcours, il est atypique, mais il est incroyable. Et aujourd'hui, j'avais larmes aux yeux parce que c'est un moment que tu vis qu'une seule fois dans ta vie.
Comment on explique ça ? On explique ça par un groupe incroyable, des joueurs qui se mettent au service du collectif. Et voilà, les capitaines ils tirent le groupe, la jeunesse apporte, tout le monde met son grain de sable. Et c'est une dynamique qui tourne. On a gagné la Nation, on gagne l'Euro et bon, j'espère que ça va pas s'arrêter là.
Robin Lenormand au micro RFI d'Antoine Grenier. A noter, Arnaud, que le milieu de Manchester City, Rodri, a lui été élu meilleur joueur de 7 euros.
Et maintenant, la réaction des supporters à Madrid. Pierre Chapon pour RFI.
Le coup de sifflet final, Antonio, la trentaine savourait.
Quelle émotion, c'est ça l'Espagne les gars. On a gagné l'Euro. Là, il y a un sentiment de fierté. Je suis très heureux du travail accompli par les joueurs aujourd'hui. Ils ont travaillé dur et c'est grâce à eux que nous avons gagné.
De la joie, oui, mais aussi beaucoup de fierté. La fierté d'avoir réuni une nation pendant un mois de compétition. Jamais l'Espagne, depuis 12 ans, n'avait autant rassemblé. Un des bénéfices de cet Euro pour Andrés, 18 ans.
Wow, il y a beaucoup de joie. Nous avons tous été unis. L'Espagne n'a fait qu'un. Tout le monde a soutenu cette équipe nationale. On s'est tous sentis identifiés dans cette sélection. Tout s'est très bien passé.
Et la Copa América avec l'Argentine qui gagne la finale contre la Colombie, 1-0 après prolongation. La troisième place revient à l'Uruguay qui a battu le Canada au tiers au but, 4-3. Et on passe au Tour de France avec, hier c'était lundi jour de repos, mais un week-end dominé par Pogacar qui a gagné la 15e étape dimanche avec plus d'une minute d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard qui croit qu'il peut encore gagner. On l'écoute.
S'il reste encore une chance, oui, bien sûr, ce tour est loin d'être fini. Avec un Tadej à ce niveau, ce sera difficile, évidemment. Mais on a vu ces deux dernières années qu'il pouvait aussi connaître de mauvais jours. Alors pourquoi pas? On l'espère en tout cas. Et puis si ça ne marche pas, je crois qu'il faut aussi se satisfaire de mon niveau. Après ma chute et mes blessures, ce n'était pas gagné. Je suis déjà très fier de moi et de l'équipe.
Et comment s'est déroulée cette 15e étape dimanche? Eh bien, voilà les précisions de Eric Mamrut pour RFI.
Déjà vainqueur de deux étapes sur ce tour, donc le Slovène a récidivé, maillot jaune sur les épaules. Il a remporté en solitaire la 15e étape au sommet du plateau de Bey, après trois premiers cols avalés. Tadej Pogacar premier devant ses deux poursuivants. En classement général, le Danois Jonas Vingegaard et le Belge Remco Evenepoel, désormais relégués respectivement à plus de 3 et 5 minutes. Remco Evenepoel, troisième avec le maillot blanc de meilleur jaune sur le dos, qui reconnaît la supériorité actuelle de Pogacar.
C'est clair encore que Tadej, c'est le meilleur du monde. Jonas, il n'est pas trop loin, mais je pense que Tadej, il est plus fort que Jonas pour le moment. Et puis à moi, je pense que je suis le meilleur du reste. C'est mon premier Tour de France, je suis là sur la course pour le podium. Je suis en maillot blanc encore, avec assez beaucoup d'écart, donc je suis très heureux. Et du coup, il faut garder le moral, la tête haute. Il y a encore une grande semaine qui arrive, mais pour le moment, tout se passe bien, donc il faut qu'on continue comme ça.
À signaler que Binay Girmay, l'érythréen, garde toujours le maillot vert. Les préparations des JO avec la flamme olympique qui est à Paris depuis le 14 juillet, quelques jours du début des Jeux. À partir de mercredi, la torche ressortira de Paris pour être en Picardie et dans toute l'île de France avant de revenir le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Et puis la Seine va accueillir des épreuves de natation en eau libre et de triathlon. La ministre des Sports s'est baignée dans l'eau de la rivière samedi dernier. Pierre Olivier, RFI.
Combinaison et bonnet de bain noir sur la tête, Amélie Oudéa Castéra se jette à l'eau, ou plutôt glisse dans l'eau à plat ventre après avoir perdu l'équilibre sur des algues. On aura vu des plongeons plus majestueux, mais après quelques longueurs dans la Seine, la principale intéressée semble conquise par l'expérience, au micro de RMC Sport.
Fabuleux, quel bonheur, c'est juste génial, génial. Voilà, bonheur total, promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés, génial.
Une démonstration plutôt rassurante au pied du pont Alexandre III où se tiendront les épreuves de natation du triathlon. La teneur du fleuve en bactéries fécales Escherichia coli à cet endroit étant dans les clous pour autoriser la baignade. Seul petit hic, le débit de la Seine trois fois supérieur à la normale d'été à cause des pluies de ces dernières semaines. Conséquence, encore beaucoup de courant ce samedi matin. Un courant porteur pour Amélie Oudéa Castéra qui signe là un beaucoup de com en grillant la priorité à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui doit se jeter à l'eau mercredi prochain.
On passe au rugby avec les tests match d'été et la victoire de l'Argentine contre la France 33-25. L'Irlande a battu l'Afrique du Sud par un seul petit point, 25-24. L'Australie s'est imposée contre le Pays de Galles 36-28 et victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Angleterre 24-17. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi.
C'était Hervé qui nous a interprété sa chanson Sémaphore. Je signale que vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur SBS Audio. Et toujours dans votre programme, nous allons avoir donc parlé de la vie de la cantatrice d'opéra Maria Callas. On reviendra également sur la tentative d'assassinat de Donald Trump le week-end dernier. Mais à présent, après une courte pause, on retrouve Christophe Mallet et Florian Malézieux sur la route de la Grande Boucle.
Eh bien, dans le programme en français sur Radio SBS, c'est toujours le plaisir d'avoir Florent Malézieux avec nous. Salut Florent.
Bonjour Christophe.
Tour de France, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Presque, on peut vous couper les veines, il y a du sang de Tour de France qui coule en vous. On sent que vous avez le plaisir d'être sur ce Tour de France.
Ah oui, effectivement, le Tour de France, c'est magique. Ça fait partie de notre culture ici en France. Donc avoir la chance de travailler dessus, c'est unique. On se sent vraiment chanceux d'être présent sur le Tour et on donne beaucoup pendant ces 3 semaines pour donner un beau spectacle.
Ouais, vous avez été avec nous hein, plusieurs fois en Australie. D'ailleurs, vous travaillez sur l'étape du Tour. Aujourd'hui, vous travaillez à ASO avec l'organisation du Tour de France. Expliquez-nous un petit peu votre rôle, parce que là, aujourd'hui, on est assis dans une zone technique à l'arrière du van d'SBS, juste pour décrire ce qu'on fait. Et tout ça, c'est en partie vous qui installez, vous organisez ça. C'est, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un casse-tête chinois.
Effectivement, vu de l'extérieur, ça peut faire peur, et donc on le prend morceau par morceau. Donc moi, j'appartiens au service logistique chez ASO, au Tour de France. Et mon rôle, en fait, c'est de coordonner l'ensemble des moyens techniques qu'on met en œuvre pour produire le Tour de France. C'est beaucoup, beaucoup de véhicules de télévision, de radio, qui permettent de retransmettre la course et de la faire vivre à travers le monde. Et en fait, tout au long de l'année, on travaille avec nos collègues du cyclisme, qui repèrent les sites, qui nous explique s'il y a des contraintes spécifiques. Et en fonction de ça, nous, on fait ensuite le lien avec l'ensemble de nos prestataires pour commander les bons équipements au bon moment, aux bons endroits. Et puis, durant le tour, on fait tout le suivi à leur côté. On s'assure qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, qu'ils ont toutes les informations et surtout que leur travail correspond aux attentes de la course.
Mais c'est presque incroyable parce que on est dans presque l'invisible. Si on ne regarde pas de très près, on voit une ligne d'arrivée, on se dit il y a 180 coureurs qui vont monter cette côte et qui vont la passer, basta. Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière, quand on est dans cette bulle, on se rend compte à quel point c'est un fourmillement total de choses et d'autres. Hein. On parle de télévision, on parle de sécurité, on parle de police, on parle de catering, comme on dirait en anglais. C'est juste incroyable la logistique derrière.
Oui, on nous voit très peu à l'image. Hein. Ce qu'on montre à la télé, ce dont on parle à la radio, c'est la course, c'est les coureurs. Alors on voit certains des éléments qu'on met en place, comme la ligne d'arrivée, comme les barrières, comme les points kilométriques. Tout ça, ça passe en télé. Mais à côté de ça, effectivement, on a environ sur une arrivée 300 personnes, plus d'une centaine de camions qui sont là pour s'assurer justement que vous voyez de belles images. Donc on travaille dans l'ombre. Et c'est un peu aussi ce qui fait le plaisir de notre métier. On n'est pas sous les projecteurs, mais on est à côté de la course, au bord de la course, et on en voit les coulisses.
Et ce Tour de France, c'est 111e édition hein, de ce Tour de France. On sent vraiment, quand on est un peu dans le circuit vélo, que le Tour de France, c'est la reine des reines en termes de course sur la route, sur le circuit, mais dans la logistique aussi, parce que c'est vraiment le leader dans l'événementiel sportif. Enfin, on parle des Jeux Olympiques, mais c'est pas des sites itinérants. L'itinérance du Tour de France fait que, forcément, avec la difficulté des choses, on peut pas dire autrement. Le Tour de France, c'est vraiment le maillot jaune de l'événementiel sportif.
Ouais, c'est un événement très très complexe. On change de place 21 fois tout au long de l'épreuve. Donc on se déplace tous ensemble. Parfois on va dans des endroits qui sont difficilement accessibles. Donc on est obligé d'adapter nos moyens. Effectivement, l'itinérance, c'est ce qui fait la spécificité du Tour de France. Mais tout le monde y est très attaché. Hein. On a l'habitude à dire que il y a quelqu'un qui a imaginé ça en 1903, cette folle aventure. Et aujourd'hui, on est un peu les héritiers de ce projet. Et c'est à nous de continuer à le porter. C'est un événement qui est plus grand que nous tous. Mmh. Tu viens de le dire, 111e édition.
C'est plus grand que les guerres mondiales, enfin, c'est plus grand que tout en fait. Hein,
rien n'a arrêté le Tour de France, même le Covid n'a pas arrêté le Tour de France.
Il y a eu des guerres mondiales qui ont quand même arrêté le Tour de France, mais là, fallait quand même... là c'est la limite. Je veux dire, c'est la limite
le Tour de France sait s'adapter, se transformer pour aller au-delà de tous les défis qui peuvent nous être lancés. Et c'est peut-être ce qui en fait sa force et sa spécificité.
Vous avez la chance de voir les villes avant l'installation. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai toujours dit que ce serait génial d'avoir un drone pour nous de voir la fourmilière s'installer. Mais vous, quand vous voyez les villes et quand vous voyez le sourire des enfants sur le bord des routes, le sourire des grands-mères, des grands-pères, de voir le Tour de France, ça doit être quand même sacrément jovial pour vous de se dire, bon, voilà, on apporte le bonheur dans une ville. Bon, on s'en va assez rapidement, mais quand même, finalement, on a apporté le bonheur pour la journée.
Ouais, effectivement, c'est une grande fête, le Tour de France. C'est 3500 km de sourire. Ça m'arrive parfois de travailler le matin au village départ et de me rendre ensuite sur l'arrivée. Ça m'arrive d'emprunter le parcours avant les coureurs, 2-3 heures avant les coureurs, et ben c'est déjà noir de monde. On a une voiture avec le logo Tour de France, tout le monde nous fait coucou. On n'est pas des directeurs d'équipe, ouais. On n'est pas des sportifs, mais les gens sont heureux de nous voir. Ils ont attendu ça toute l'année, ils ont sorti leur table au bord de la route, ils font des barbecues, ils sont avec leurs amis. C'est l'été, il fait beau. C'est vraiment le cliché de la France au mois de juillet.
Mais on va le prendre. En tout cas, c'est ce qu'on met à l'antenne sur SBS tous les soirs. Merci Florent de nous avoir un petit peu détaillé le côté logistique de ce tour.
Merci à vous.
C'est toujours à l'écoute du programme en français sur SBS Audio. Bien, le week-end dernier, l'ancien président américain Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il était en campagne en Pennsylvanie. Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, revient sur cette tentative d'assassinat. Elle est avec Arnaud Pontus pour RFI.
Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste des États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'enquête, notamment, mais aussi sur l'impact politique que tout cela peut avoir, évidemment. L'impression générale, d'abord, Marie-Cécile Nave, est-ce qu'on vient d'assister à un tournant dans la campagne présidentielle américaine ?
Oui, c'est très probablement un tournant dans la campagne. Quant à savoir quels en seront les effets sur le vote, c'est impossible à ce stade.
Oui.
On est encore dans une phase de sidération et on assiste d'ores et déjà à une bataille de récits hein, de chaque côté de l'échiquier politique. Et on va voir dans les jours et dans les semaines qui viennent, dès la convention républicaine d'ailleurs de Milwaukee qui commence
tout à l'heure ce soir,
comment les deux partis politiques, en particulier le parti républicain, va commenter et va analyser cet événement, s'inspirer pour son programme politique, on va voir.
Et capitaliser sur l'événement, en fait.
Pour l'instant, la capitalisation sur l'événement, elle est plutôt opérée grâce à un récit conspirationniste, hein, plutôt plusieurs récits conspirationnistes, consistant à dire que le président Biden a un lien direct avec l'attentat. Par exemple, pour J.D. Vance, le sénateur de l'Ohio, qui est pressenti pour être choisi par Trump comme vice-président potentiel. C'est la rhétorique critique vis-à-vis de Trump dans le camp démocrate qui a conduit directement à cette tentative d'assassinat. Donc ce sont des accusations très graves qui ne reposent sur rien, mais qui sont un exemple assez archétypal du récit complotiste qu'on retrouve à bord de l'échiquier politique.
C'est que Joe Biden en fait est accusé en quelque sorte d'avoir incité au meurtre, notamment en qualifiant son concurrent à plusieurs reprises de danger. C'est ça le narratif ou l'explication qui est avancée côté républicain.
Oui, l'explication avec beaucoup de guillemets. Hein. On retrouve aussi sur les réseaux sociaux un déluge de propos et d'images complotistes accusant le Deep State, le FBI, la CIA, la gauche radicale de vouloir empêcher Trump par tous les moyens de revenir aux affaires. Alors, les théories du complot ne sont pas nouvelles en pareille situation. On se rappelle celles qui fleurissent hein, depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Sûr. Mais aujourd'hui, la désinformation est devenue virale par la chambre d'écho énorme des réseaux sociaux et des bulles des réseaux sociaux.
Oui, peut-être que c'est aussi renforcé par l'impression de faille de la sécurité lors du meeting de samedi. On a vu ces personnes présentes sur les lieux du meeting dire qu'ils ont repéré le tireur, l'avoir signalé aux policiers qui étaient autour d'eux et sans qu'il y ait de réaction.
Alors, je me garderais bien de faire un commentaire sur la qualité des services de sécurité parce qu'il faut l'enquête, il faut que l'enquête suive son cours. En revanche, ce qu'on peut dire quand même dans un pays qui est malade de ses armes à feu, c'est que voir quelqu'un qui a un fusil semi-automatique sur le dos se promener dans l'espace public, ça ne choque pas tant que ça. Hein. Et d'ailleurs, ça aussi, ça va sans doute faire partie du narratif de chacun des deux partis. Du Parti démocrate, c'est certain, parce que la limitation et la régulation du libre port d'armes figurent en bonne place sur le programme du Parti démocrate. En revanche, du côté républicain, jusqu'ici, on avait une réticence très forte à parler politique quand il s'agissait de l'usage des armes à feu. Là, ça pourrait changer.
Ça pourrait changer. Marie-Cécile Nave, on a entendu Joe Biden appeler au calme, demander aux Américains de faire baisser la température. Est-ce que ce discours peut être entendu?
Alors, c'est vrai que du côté des démocrates et en particulier de Joe Biden, on appelle à l'apaisement, on fustige la violence politique. C'est un peu normal de dire ça. Et d'ailleurs, du côté des démocrates, ça fait très longtemps qu'on regrette hein, l'hyperpolarisation et l'affrontement hyperpartisan qui se joue aux États-Unis, qui ne date pas de Trump, qui a été engagé dès la fin des années 90, qui s'est amplifié sous la présence Obama, mais qui a été amplifié encore plus, théâtralisé et assumé par le trumpisme. Donc on est aujourd'hui dans une situation où il est impossible, où il est très difficile, voire impossible de se parler d'un camp à l'autre, et les adversaires politiques sont systématiquement désignés comme des ennemis. Donc ça va être très difficile d'unir le pays et de demander un peu une trêve politique, ce qui avait été fait avec succès suite à la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan en 1981. Là, ça avait fonctionné.
Oui, mais là, dans le contexte, ça vous semble difficile?
Nous verrons, mais les conditions ne sont pas
les mêmes. Oui. Et puis il y a toutes les théories du complot que vous évoquiez à l'instant. Tout ça nourrit effectivement cette défiance réciproque. Merci à vous, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des États-Unis.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aussi bon qu'elle, quand t'as eu autant de chance, comment t'as grandi aussi bon calme. La vie en Afrique c'est dur, donc on a grandi aussi dur qu'elle.
Et c'était Tant pis, une chanson de Rimka avec la participation de Tiff et Sofiane Pamar. Vous êtes toujours à l'écoute du français sur SBS Audio. Et place à présent à un profil de la cantatrice Maria Callas à travers l'opéra.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Miranda Middleton. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Et vous êtes la directrice adjointe de Masterclass. C'est une pièce théâtrale à propos de la chanteuse d'opéra, la cantatrice Maria Callas, qui est présentée au Ensemble Theatre à Sydney jusqu'au 20 juillet prochain. Peut-être d'abord, parlez-nous de cette pièce qui, d'après ce que je comprends, est dirigée par Liesl Badorek.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, c'est une pièce qui raconte une partie de la vie de Maria Callas. C'est la partie de sa vie quand elle donnait des cours aux étudiants, des chanteurs, des chanteuses d'opéra. Et donc voilà, on est dans le cours avec Maria Callas et trois étudiants qui chantent pendant la pièce. Et voilà, comme vous avez dit, c'est dirigé par une femme extraordinaire, à mon avis, qui s'appelle Liesl, oui.
Et donc, l'année dernière, on a marqué le 100e anniversaire de la naissance de Maria Callas. Alors, peut-être pour nos auditeurs, un petit mot sur cette grande dame de l'opéra. Elle est née à New York, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, elle était grecque d'origine.
Oui.
Et elle a vécu une vie assez extraordinaire. Elle était connue comme chanteuse d'opéra pour être quelqu'un qui ressentait des émotions très fortes. Et pendant cette pièce, elle parle beaucoup de l'importance d'écouter la musique quand on chante. Et ouais, c'est ça. Et elle adorait l'opéra et elle mettait beaucoup d'importance sur l'art, sur la beauté, le théâtre, les histoires. Et donc voilà. Mais en fait, elle est morte assez jeune. Donc sa vie était formidable, mais assez courte.
Est-ce que sa carrière vous fascine personnellement?
Oui. En fait, je ne connaissais pas très bien sa carrière avant de commencer cette pièce. Mais ce que je trouve c'est très important, c'est la façon dont elle a dû faire des sacrifices pour sa carrière. Donc, en fait, elle avait des troubles relationnels, elle n'avait pas d'enfants. Elle n'avait pas beaucoup une vie au dehors du théâtre.
Et parlez-nous du casting. Alors, qui joue le rôle de Maria Callas dans Masterclass?
Oui, oui. Donc, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que, en fait, le personnage de Maria Callas, parce que c'est à la fin de sa carrière, elle n'avait pas vraiment une voix. Elle ne pouvait plus chanter très bien. Donc, en fait, quand on parle de casting, ce n'est pas une chanteuse d'opéra qui joue le rôle de Maria Callas. C'est en fait une actrice qui s'appelle Lucia Mastrantoni. Et elle peut chanter, mais elle ne chante pas pendant la pièce. Donc, c'est Lucia qui est le centre de la pièce, on dirait. Et puis, nous avons un chanteur d'opéra et deux chanteuses d'opéra avec Lucia. Et en plus, on a une pianiste et un autre musicien qui joue du cello.
D'accord. Et il y a des autres personnes qui font partie du casting sur scène?
Donc en fait moi il y a six acteurs dans la pièce et c'est tout. Donc juste six.
Oui.
Ouais.
Et combien de temps dure le spectacle?
Ouais, c'est presque 2 heures en fait.
2 heures. Que diriez-vous aux gens qui nous écoutent en ce moment pour venir découvrir Masterclass, venir découvrir la vie de Maria Callas?
Oui, absolument. Personnellement, je trouve que cette pièce est assez belle. Il y a beaucoup le langage est très riche. Les acteurs sont formidables. Et je trouve que la musique dans la pièce, ça nous aide à transcendre notre expérience. Dans ce monde, en ce moment, ça nous transporte ailleurs et je trouve qu'en ce moment, ça, c'est un don, c'est un cadeau. Donc, j'encourage les écouteurs de venir découvrir cette pièce.
Alors, on va profiter de l'occasion pour parler de Miranda Middleton. Alors, parlez-nous de votre parcours professionnel dans le monde du spectacle. Vous avez débuté quand, où et comment?
Oui, donc en fait j'ai fait le master de directing à NIDA en 2019 et puis il y avait quelques ans pendant Covid où il n'y avait pas beaucoup de théâtre, donc j'ai commencé à écrire des comédies musicales. J'ai deux comédies musicales qui se développent en ce moment, mais ça fait 4 ans maintenant que je suis rédactrice de spectacles. J'adore le théâtre avec de la musique et aussi de la danse. J'étais danseuse quand j'étais jeune et j'apprécie beaucoup le texte. Donc voilà, c'est moi, mais cette année, je suis, ça s'appelle Sandra Bates Directors Awards Recipient at Ensemble Theatre. Oui. Donc c'est pour cette raison-là que je suis en répétition et j'assiste les autres avec Masterclass.
Parlons un petit peu de vos autres projets pour après Masterclass.
Oui, après Masterclass, je vais aussi être rédactrice adjointe sur le comédie musicale Little Women à Hayes Theatre, aussi à Sydney. Et puis après ça, je vais retourner à Ensemble Theatre pour une nouvelle pièce australienne qui s'appelle The Queen's Nanny. Et ça, c'est avec Priscilla Jackman, qui est une autre femme extraordinaire, à mon avis. Et puis, finalement, cette année, je vais diriger une saison de ma propre comédie musicale qui s'appelle Paper Stars. Et ça raconte la vie de l'écrivain de Mary Poppins, qui était en fait australienne, P.L. Travers.
Et on espère vous avoir à nouveau sur les ondes de Radio SBS en français pour nous expliquer un petit peu tous ces spectacles que vous avez en tête. Et je suis curieux de vous demander cette question. Où est-ce que vous avez appris le français? En Australie?
Oui, c'est ça. Je l'ai appris quand j'étais au lycée. J'ai fait un échange à Lyon quand j'avais 16 ans. Et en fait, je suis restée en contact avec la famille d'accueil.
Oui.
Donc, et puis l'année dernière, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques. Pendant 5 semaines, je me promenais à la campagne française. Donc, j'essayais de pratiquer la langue.
Formidable. Et je rappelle oui. qu'on est avec Miranda Middleton, qui est la directrice adjointe de Masterclass. Et donc, Masterclass, c'est jusqu'au 20 juillet prochain. C'est au Ensemble Theatre à Kirribilli, à Sydney, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Miranda Middleton, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS en français. Et bonne continuation.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et à la prochaine fois. Merci.
Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et c'était les frères Timal qui nous interprétaient leur chanson Petit Paradis. Et cette chanson nous amène presque à la fin de cette édition du jeudi 16 juillet. Mais avant de nous quitter, je vous propose un rappel des principaux titres de l'actualité. L'armée australienne va se doter de 15 nouveaux véhicules de mobilité d'infanterie Bushmasters pour un montant de 45 millions de dollars. En France, blocage sur le choix d'un candidat pour Matignon alors que la composition de la nouvelle assemblée se précise. Et aux États-Unis, les républicains choisissent Donald Trump comme leur candidat au présidentiel du mois de novembre prochain avec J.D. Vance comme colistier. Voilà, notre programme touche à sa fin. Prochaine édition, donc prochain rendez-vous avec le programme en français sur SBS Audio, c'est jeudi prochain entre 13 et 14 heures comme d'habitude. Merci infiniment de nous avoir suivis ce mardi après-midi. À très bientôt. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.